Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur les dessous de la vente d'Alstom Energy en 2014 à l'entreprise américaine General Electric. Deux ans plus tard, en septembre 2016, l'information tombe, provoquant surprise et sidération. La direction d'Alstom annonce son intention d'arrêter la production de trains sur son site de Belfort. En jeu, le transfert d'environ 400 salariés et la fermeture du site historique de l'entreprise. Dans la précipitation, le président Hollande et son gouvernement trouvent une solution pour sauver le site et repousser un temps la fatalité. Oui, mais comment a-t-on pu en arriver là? Alors même que deux ans plus tôt, on nous annonçait la conclusion d'une vente qui devait relancer Alstom. Quand en 2014, la France vend ses centrales nucléaires à l'entreprise américaine General Electric, un ancien patron d'une des filiales d'Alstom, Frédéric Pierucci, se retrouve au cœur d'un thriller à 12 milliards de dollars, comme il le dit lui-même. Eh bien, il sera avec nous, par téléphone, à Berlin, après le récit, pour témoigner, ainsi que notre invité en studio, le journaliste Mathieu Aron, qui a coécrit avec lui « Le piège américain » chez Jean-Claude Lattès en janvier dernier. Ce livre raconte cette guerre secrète que les États-Unis livrent à la France et à l'Europe, et dont Alstom finalement n'est qu'une bataille, pas la moindre des batailles, mais une bataille parmi d'autres. Avec nos deux invités, nous essaierons de répondre à ces quelques questions. Comment comprendre une décision qui acte encore un peu plus la désindustrialisation du pays et renforce nos concurrents? En quoi révèle-t-elle une forme de renoncement des élites économiques et administratives du pays? Enfin, quels sont les dessous de ce dossier? Autrement dit, en quoi certains éléments laissent-ils à penser qu'il pourrait s'agir d'un scandale d'État? Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Dimanche 9 février 2014, au 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris, à quelques pas de l'Élysée, se trouve l'hôtel Bristol. C'est là, dans l'un des salons discrets de ce prestigieux établissement apprécié des grands patrons et des hommes d'affaires, que tout commence. Ils sont cinq autour de la table, deux Français et trois Américains. On l'oublie souvent, à l'heure de la reine finance et des échanges à la nanoseconde, l'économie est encore une histoire de dîner, de discussion en chair et en os dans l'intimité du pouvoir. Côté français, on trouve d'abord Patrick Cron, 61 ans, un parcours exemplaire, polytechnicien, école des mines, ingénieur d'État et, depuis 2003, PDG d'Alstom. Il est accompagné de Grégoire Pou-Guillaume, directeur d'Alstom Grid, la branche réseau électrique du groupe. Au fil de son parcours entre la finance et l'industrie, ce cadre franco-américain a noué des relations avec certains hauts placés du géant américain General Electric, et c'est lui qui œuvre pour qu'ait lieu la réunion du jour. En face d'eux se tient un triumvirat américain. Il y a là Jeff Immelt. À 58 ans, il est à la tête d'un empire de plus de 250 milliards de dollars, General Electric, l'un des plus importants conglomérats du monde, présent dans le domaine de l'énergie, du transport, de la santé et des médias, avec pour cœur d'activité la production, le transport et la distribution d'électricité. À ses côtés, Steve Bowles, le patron de la branche énergie de General Electric, et John Flannery, responsable des fusions-acquisitions. Oui, car l'enjeu du dîner est bien là, fusion-acquisition. Depuis plusieurs mois, Patrick Cron a pris sa décision. Il veut vendre la branche énergie d'Alstom. C'est un fait, l'entreprise qui repose sur deux piliers, les transports, avec la fabrication des trains, métros et tramways, et l'énergie, où elle est l'un des leaders mondiaux dans l'équipement, ainsi que la maintenance des centrales nucléaires, bien ce mécano, ce grand mécano, est sur la mauvaise pente. Deux piliers confrontés à des difficultés, crise financière, Fukushima, saturation du marché européen, concurrence asiatique, deux piliers déséquilibrés, le secteur de l'énergie représente pratiquement deux tiers de son chiffre d'affaires. Alors pour Patrick Cron, c'est clair, en ce début d'année 2014, il faut agir. Son plan est simple, vendre Alstom Energy pour récupérer d'importantes liquidités et renforcer ainsi le secteur du transport. Un secteur plus petit, mais qui deviendrait plus riche, donc plus fort et en capacité d'investir, d'innover, de renforcer ses positions. C'est la fameuse stratégie de la taille critique. De leur côté, Jeff Immelt et General Electric prêtent une oreille évidemment attentive aux désirs de Patrick Kron. Voilà une occasion en or, dans un même mouvement, de s'ouvrir les portes du marché européen et de détenir plus de la moitié du marché mondial des turbines à gaz et de leur maintenance. Il s'agirait de la plus grande acquisition de l'histoire de General Electric. Ce dimanche 9 février 2014, dans le plus grand secret, s'écrivent les premières lignes d'un deal aux conséquences politiques, économiques et symboliques sans commune mesure. Et bien sûr, la sensibilité du dossier impose une grande discrétion. Sauf que le 23 avril 2014, 2 mois et demi après cette première réunion, une information inattendue s'invite au cœur de l'actualité.
Alstom, fleuron industriel français, va-t-il être racheté par l'américain General Electric? C'est en tout cas l'agence Bloomberg qui l'annonce. La somme de 13 milliards d'euros aurait été proposée. Cela pourrait avoir des implications politiques dans la mesure où Alstom est présent dans le nucléaire, mais aussi dans la construction du TGV, autre fleuron national. Aujourd'hui, l'action Alstom s'est envolée à Paris. Emmanuel Valls a affirmé suivre le dossier avec attention. Cela illustre en tout cas, disent les spécialistes, l'attractivité des entreprises françaises dans l'économie mondiale.
Que s'est-il donc passé entre cette première réunion du 9 février 2014 et cette fuite le 23 avril? Eh bien, tout simplement la mise en place de la vente. Oui, car un mois plus tôt, le 23 mars, Patrick Kron était à New York pour une deuxième réunion au cours de laquelle il a donné accès à l'équipe de General Electric aux différentes informations de l'entreprise. Et puis, des banques et des grands cabinets de juristes sont entrés dans la boucle. Le plan de Patrick Kron est simple. Il a trouvé un acquéreur qui l'a convaincu d'acheter la totalité de la branche énergie et qui propose un prix acceptable autour de 13 milliards de dollars. Il veut donc ficeler l'opération pour être sûr que son conseil d'administration le vote. Il préviendra au dernier moment les responsables politiques pour les mettre devant le fait accompli, tout simplement. Il faut donc éviter à tout prix que l'information soit rendue publique. Alors, Patrick Kron et ses équipes avancent en coulisses. Un mois plus tard, le 23 avril, le patron français est à Chicago pour une dernière réunion avec Jeff Immelt. Ce dernier sort tout juste du conseil d'administration de General Electric, au cours duquel il a obtenu l'accord pour le rachat d'Alstom Energy. Les termes de la vente sont définis, les Américains s'engagent à ne pas retirer leur offre, les Français auront un mois pour se décider et ils pourront étudier d'autres offres comparables sans pour autant en solliciter d'autres. Mais alors, qu'il est dans l'avion pour retourner à Paris, l'agence américaine Bloomberg, qui a eu vent de l'affaire, publie son scoop. Évidemment, l'information ne passe pas inaperçue et les premières inquiétudes apparaissent.
Non, Alstom ne sera pas racheté par les Américains de General Electric. C'est ce qu'a dit hier le patron du fleuron français à ses syndicats. Seule la branche énergie semble intéresser General Electric. Du coup, dans l'une des usines de turbines à Belfort, eh bien, on accueille la nouvelle avec appréhension. Jean Armando est de la CGT Alstom Belfort.
Personne ne s'attendait à une telle position. À Belfort, il y a deux fabrications de turbines, des turbines General Electric et des turbines Alstom. Donc il va y avoir une bonne production. Pour moi, il y aura facilement entre 1000 et 1500 salariés de trop sur cette activité. On connaît tous les difficultés aujourd'hui financières d'Alstom. On n'a pas les chiffres officiels puisqu'ils seront dévoilés le début mai. Tout montre qu'on est quand même sur un exercice très difficile au niveau financier, quoi.
Jeudi 24 avril 2014, lendemain de l'annonce, changement de décor et d'ambiance. Cette fois, nous sommes au 5e étage du ministère de l'économie et des finances à Bercy, où se trouve le bureau d'Arlo Montebourg, qui a donné rendez-vous à Patrick Kron pour qu'il s'explique sur ce qu'il vient d'apprendre dans la presse et qu'il ignorait, oui, totalement. Après le remaniement du 31 mars, dans ce premier gouvernement Valls, Arlo Montebourg est désormais à la tête d'un vaste ministère qui regroupe l'économie et le redressement productif. Jusqu'à maintenant, il a essuyé quelques échecs, au premier rang desquels, en début de mandat, celui de la fermeture de l'usine sidérurgique de Florange. En cette fin de mois d'avril, il est encore sur le front, en train de finaliser le dossier PSA. Là, face à Patrick Kron, il n'en revient pas. Comment le patron de l'une des plus importantes entreprises françaises peut-il organiser la vente d'une partie de ses activités, et non des moindres, puisqu'il s'agit du secteur hautement stratégique de l'énergie et du nucléaire, sans en parler avec le gouvernement? Patrick Kron se défend. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien d'officiel, donc rien à dire. Puis, il est à la tête d'une entreprise privée, il n'a donc pas l'obligation d'en référer au ministre. Et puis quoi? Arnaud Montebourg est tout au courant des difficultés de l'entreprise, alors? Effectivement, Arnaud Montebourg savait. Quelques mois auparavant, il avait demandé à un cabinet de conseil un rapport sur les solutions à envisager pour améliorer la situation d'Alstom. Étude auquel avait participé Patrick Cron, plutôt à reculons d'ailleurs que Larry. Il avait déjà son idée de vendre l'énergie et un acheteur, General Electric. Alors, ce 24 avril 2014, à Bercy, la discussion entre les deux hommes est pour le moins tendue. À partir de maintenant, Arnaud Montebourg doit reprendre les choses en main et Patrick Cron est prié de se faire discret.
Nous allons nouer un dialogue serein, mais ferme, avec tous ceux qui, dans ce dossier, ont des choses à nous dire, bien sûr les actionnaires, bien entendu General Electric, que je recevrai dès que possible aux côtés du Premier ministre dans les jours qui viennent, de manière à ce que le projet nous soit complètement exposé. Car il s'agit d'un projet dont le gouvernement n'avait pas été informé.
Si Arnaud Montebourg brandit le flambeau du patriotisme économique, ce n'est pas pour rien. Certes, Alstom est une entreprise privée, mais doit-il rappeler à Patrick Cron et aux Français que l'entreprise est un patrimoine national, qu'elle vit en grande partie des commandes publiques, et qu'il y a 10 ans, en 2004, c'est bien grâce à l'État et à des fonds publics qu'Alstom a pu se sortir d'une situation particulièrement délicate. Ce précédent de 2004, tous au gouvernement et à l'Élysée l'ont à l'esprit. À l'époque, c'est Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, qui s'était occupé du sauvetage et s'était présenté comme le sauveur. Pour Arnaud Montebourg, comme pour Manuel Valls ou François Hollande, ce gouvernement ne peut en aucun cas être celui qui abandonne aujourd'hui Alstom aux Américains. Le symbole politique serait dévastateur. Alors à tous les étages du pouvoir, c'est le branle-bas de combat. Nicolas Dufour, le directeur de la Banque publique d'investissement, David Anazema à la tête de l'Agence des participations de l'État, Emmanuel Macron, le secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée, et l'équipe d'Alain Montebourg se mettent au travail. Première décision, on avertit la haute autorité des marchés financiers pour bloquer le processus de vente. Ensuite, chez tous, une évidence s'impose. Il faut effectivement vendre la partie énergie d'Alstom. Pour l'État, la seule manière de reprendre la main, c'est de trouver un autre repreneur, un autre plan que celui de General Electric. On se tourne alors naturellement vers Siemens et son PDG, Joe Kaeser, le géant allemand de l'énergie et des transports. Entre Siemens et Alstom, c'est en effet depuis toujours un peu « je t'aime, moi non plus », on se parle sans s'écouter, on s'observe sans se séduire. Mais là, pour l'entreprise allemande, l'enjeu est de taille. Ce rachat par General Electric représente une menace directe de concurrence pour Siemens. Ces derniers s'empressent alors de rédiger une lettre d'intention pour formuler une offre. Ainsi, le 28 avril, soit 5 jours à peine après l'annonce surprise de l'agence Bloomberg, Siemens s'invite dans la partie et une deuxième offre vient contrebalancer la proposition des Américains.
Alstom va se donner 2 jours de plus pour étudier les deux offres. D'un côté, l'américain General Electric qui veut racheter sa branche énergie, ses turbines, ses réseaux électriques, ses éoliennes, 70% de son activité contre 10 milliards d'euros. C'est l'offre qui devait être entérinée ce week-end. De l'autre, il y a l'offre de Siemens, offre de dernière minute. Siemens propose d'échanger en partie ses trains à grande vitesse et ses locomotives contre la branche énergie d'Alstom. Une solution alternative qui ne plaît ni au PDG d'Alstom, Patrick Cron, ni au syndicat qui juge l'offre allemande très risquée pour l'emploi. Siemens est un concurrent direct d'Alstom. General Electric est, dit-on, plus complémentaire, mais politiquement, l'avantage de Siemens, c'est qu'il s'agit d'une offre européenne. Pour Arnaud Montebourg, ça permettrait de créer 2 champions européens dans le rail et dans l'énergie, Siemens s'engageant à ne pas licencier pendant 3 ans. Une façon aussi d'obliger l'Américain à revoir son offre à la hausse sur l'emploi et sur les centres de décision en France.
La contre-attaque de l'État est donc lancée. Pour bien montrer qu'il reprend les choses en main, François Hollande reçoit Jeff Immelt à l'Élysée ce même 28 avril et dans la foulée, il reçoit Joe Kaeser, le PDG de Siemens. Après avoir proposé un nouveau scénario, il faut en écrire les grandes lignes. Alors Arnaud Montebourg s'en va expliquer à quel point l'option de Siemens est la meilleure. La réception élyséenne, la contre-proposition de Siemens, les déclarations d'Arnaud Montebourg, tout est fait pour montrer que l'État intervient et défend les intérêts de la France. En face, Patrick Cron a suivi les conseils d'Arnaud Montebourg, il se fait plus distant. Sheffield Melt, lui, rassure, montre qu'il entend les inquiétudes de l'État, qu'il va retravailler son offre. Il sait surtout qu'il a tout à perdre à se lancer dans une bataille politique. Pour l'instant, il reste maître du jeu, il a un temps d'avance sur la proposition improvisée de Siemens. Il faut donc prendre son mal en patience. Rodé aux affaires, le grand patron américain connaît l'exercice. Pendant ce temps, entre Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron et François Hollande, les discussions continuent, on s'interroge. Pourquoi Patrick Cron a-t-il autant joué la carte de la discrétion ? Au cabinet d'Arnaud Montebourg, on émet une hypothèse. Alstom serait menacé depuis plusieurs mois par une enquête du département de la justice américaine pour des faits de corruption sur des contrats en Indonésie. Une amende record de plusieurs centaines de millions de dollars menacerait l'entreprise. Et c'est un point fondamental. Et c'est peut-être la raison qui a poussé Patrick Cron à se tourner vers General Electric, l'américain. Un temps, Arnaud Montebourg croit cette version et va même jusqu'à demander aux services de renseignement français s'ils ont la possibilité d'enquêter. La réponse ne tarde pas. Ils n'ont ni les moyens, ni les compétences pour cette mission. Alors que l'inquiétude des salariés s'intensifie et que le discours de l'opposition se durcisse, devant l'Assemblée nationale, le ministre hausse le ton.
Monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ?
Une autre piste est aussi envisagée, car un troisième homme resté pour le moment loin des débats a un rôle à jouer dans notre histoire. Il s'agit de Martin Bouygues, dont le groupe du même nom détient depuis 2006 20% des actions d'Alstom qu'il a rachetées à l'État. Et lui aussi est plutôt vendeur. Pour l'instant, son aventure dans le nucléaire s'est soldée par un échec. Alors, aurait-il manœuvré avec Patrick Cron pour mettre en place cette vente et se séparer de ses actions ? Quoi qu'il en soit, une semaine après l'annonce de la vente, la bataille est en place. L'État va-t-il réussir à reprendre la main avec une partie si mal engagée ? Comment General Electric et son PDG Jeff Immelt vont-ils convaincre le pouvoir ? Enfin, quel impact aura cette décision sur les salariés d'Alstom et sur l'économie française ? France 2, journal de 20h. Après avoir laissé passer l'onde de choc de l'agence Bloomberg qui a révélé à la surprise générale le projet de vente d'Alstom Energy à General Electric, Jeffrey Immelt et Patrick Cron décident de repasser à l'attaque. Objectif, rassurer l'opinion. Les deux entreprises s'entourent des plus prestigieux cabinets de conseil de la place de Paris et pendant que Patrick Cron se rend sur le plateau de TF1, Jeffrey Immelt répond aux questions de David Pujadas sur France 2. Le patron américain officialise l'offre de General Electric et l'entreprise de séduction se met en marche.
Monsieur Immelt, Alstom est un fleuron de l'industrie française. Qu'est-ce qui peut garantir à la France que vous n'êtes pas un prédateur ?
Eh bien, écoutez, David, GE est en France depuis très longtemps. Nous avons été un bon partenaire, un bon investisseur pendant 5 ans dans l'aéronautique, dans les soins de santé, dans l'énergie. Nous avons donc un très long bilan. Et ce que je dirais aux Français, c'est que en regardant en arrière, on peut regarder vers l'avant et on voit bien ce qu'on a fait ici en France. On sait combien le secteur de l'énergie est en France. Nous serons un bon investisseur ici dans le pays comme nous l'avons été pendant les décennies.
Des milliers de salariés d'Alstom nous écoutent ce soir. Est-ce que vous donnez une assurance sur l'emploi en France de ces usines Alstom ?
Oui, je me suis entretenu avec le président Hollande en début de semaine. Ce qui est très important pour lui sont les emplois et j'ai pu en effet le rassurer que nous avons l'intention d'accroître le nombre de salariés des usines d'Alstom en France. Il y aura un bon dosage de l'ingénierie et de la fabrication qui est important pour ce pays. Ça sera de la croissance dans les régions et je sais que c'est très important pour le pays. Et j'ai démontré au président notre bilan en France où nous avons effectivement de nombreux salariés en France. Nous sommes très engagés à la France.
Jeff Immelt et Patrick Cron déroulent leur communication. Et quoi de mieux pour y parvenir que d'utiliser un symbole, et non des moindres, Belfort. Dans cette ville, à quelques mètres de l'usine historique d'Alstom, se trouve sa voisine, une usine générale électrique. Oui, leurs salariés partagent la même cantine. C'est le symbole par l'assiette, avant que les couteaux ne soient tirés. Alors, les médias vont sonder la vie des employés, et ceux-ci sont partagés. D'un côté, ils craignent un choc des cultures, écho des différences qui existeraient entre leurs voisins et eux. D'autres expliquent que la proximité et la présence de l'Américain, si près au contraire, est rassurante. Et puis l'offre américaine, contrairement à celle de Siemens, paraît plus crédible. Il y aura moins de doublons, donc moins de menaces sur l'emploi. Au fur et à mesure, l'idée que la proposition américaine est la meilleure s'impose. Même au sein du gouvernement, quelques voix s'élèvent. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement et de l'Énergie, va même jusqu'à déclarer dans une interview pour Paris Match « General Electric a le meilleur projet industriel, pourquoi ne pas le dire ?» Premier couac dans la cohésion gouvernementale demandée avec insistance par le Premier ministre Manuel Valls. Révélateur également d'une situation bien mal embarquée, l'exigence économique ne saurait supplanter l'illusion politique. Il faut absolument donner à Arnaud Montebourg des gages à son action. Et alors que le conseil d'administration d'Alstom vient de donner son accord aux négociations pour l'offre de General Electric, le ministre de l'économie sort un dernier tour de sa poche.
Le ministre de l'économie déploie donc les grands moyens. Un décret publié aujourd'hui, détaillé dans Le Monde par Arnaud Montebourg. Il permettra à l'État d'avoir l'œil et la main sur les investissements étrangers en France. Plus seulement dans les domaines de la défense et de la sécurité, ça existait déjà, mais aussi dans ceux des transports, de l'eau, de la santé, des télécoms et de l'énergie. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
Entre les lignes, évidemment, le dossier Alstom.
Ah oui, le décret était en préparation dans le plus grand secret, la discrétion, nous dit-on à Bercy. Et clairement, il pèsera sur la vente du fleuron Alstom. C'est Arnaud Montebourg qui est à la manœuvre, même si le décret est aussi signé par Manuel Valls. Désormais, le ministre de l'économie aura son droit de veto. C'est un réarmement fondamental de la puissance publique, dit Arnaud Montebourg. Et comme Alstom est un maillon essentiel de notre indépendance énergétique, l'État rééquilibre le rapport de force entre l'intérêt des entreprises multinationales et son propre intérêt. Enfin, Hélène, c'est aussi, pour le pouvoir actuel, une manière de donner un signal politique et de prendre le contre-pied de Lionel Jospin, qui disait en 2000 « L'État ne peut pas tout ».
En tout cas, ce décret permet à Arnaud Montebourg de gagner du temps et de défendre son interventionnisme économique. À la mi-mai, alors que les négociations sont engagées, l'objectif d'Arnaud Montebourg est simple. Défendre le sérieux de l'offre Siemens pour pouvoir faire pression sur General Electric et obtenir ainsi des engagements sérieux de l'Américain. Le problème reste que du côté allemand, l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. En marge d'un déplacement à Berlin, François Hollande et Erno Mundbourg rencontrent respectivement Angela Merkel et Sigmar Gabriel, le ministre de l'économie. La réponse tient en quelques mots. Nous ne nous impliquerons pas. Traduction, l'État allemand n'encouragera pas son entreprise à acheter. Voilà, comme ça c'est clair. De son côté, Siemens ne se sent pas en mesure d'y aller tout seul. Il n'a aucun intérêt à racheter l'intégralité du secteur énergie. Il faut donc trouver un autre partenaire. Et c'est là que surgit Mitsubishi, le géant japonais. Voilà l'idée de ce nouvel assemblage. Siemens s'emparerait des turbines à gaz, Mitsubishi du reste, et surtout les deux entreprises acceptent que l'État entre en participation. La formule paraît plus complexe, mais pour Erno Mundbourg et le gouvernement, elle a l'avantage de garder la main. Finalement, le 16 juin, l'offre conjointe de Siemens et Mitsubishi est déposée.
Contre le démantèlement, les deux patrons se posent en garant d'Alstom. Leur projet permettrait de préserver la marque Alstom, son identité et son pouvoir de décision. Les deux sociétés se partageraient ses activités. Siemens prendrait les turbines à gaz, Mitsubishi des participations dans les turbines à vapeur qui équipent nos centrales nucléaires, mais aussi l'hydroélectrique. Cette alliance, il s'y engage, doit permettre de créer des emplois. Joe Kaeser, le patron de Siemens, s'allie sur la proposition concurrente de General Electric.
Ce que nous voulons, c'est créer un millier d'emplois ici, en France. Siemens a aussi rencontré ce matin les syndicats de ce pays, ainsi que le président de la République, et nous allons ajouter 1000 contrats d'apprentis supplémentaires en France.
La proposition germano-japonaise provoque la colère, quoique dissimulée, de Patrick Cron et du conseil d'administration d'Alstom. Pour eux, et depuis le début, le choix est fait. Alors pourquoi étudier cette nouvelle offre? Le jeudi 19 juin, une réunion a lieu à l'Élysée. Erno Mundbourg vient présenter les deux offres à Emmanuel Macron et François Hollande. Il affirme son choix pour la solution Siemens-Mitsubishi. En face, on est plus sceptique. On sait qu'en aucun cas, on ne réussira à imposer un repreneur à un conseil d'administration qui n'en veut pas. Bref. Les deux hommes, unis au début de la crise, se déchirent à l'heure des décisions. À l'issue de la réunion, le choix du pouvoir est donc fait. Ce sera General Electric. Reste à faire en sorte qu'Erno Mundbourg ne sorte pas totalement défait, comme dans l'affaire Florange, 2 ans avant. La solution porte donc un nom, l'État, qui doit entrer au capital d'Alstom. Cette fois, on donne le sentiment de la victoire au ministre de l'économie. L'État sera présent par un système de co-entreprise et par le rachat des actions de Bouygues. Le vendredi 20 juin, Erno Mundbourg acte la victoire de General Electric au cours d'une conférence de presse. Dans la foulée, François Hollande prend la parole à l'Élysée pour se féliciter de cette sortie de crise.
Je considère que ce qui a été obtenu est un progrès pour la France et vient conclure une négociation qui a été particulièrement bien conduite sous mon autorité par le gouvernement et par les ministres concernés, et notamment Erno Mundbourg.
Derrière les mots, il y a la réalité. En fait, une victoire à la Pyrrhus. Elle n'est donc pas à l'avantage de la France. Le grand gagnant de la partie, c'est bien General Electric, qui domine chacune des co-entreprises et qui hérite des marchés juteux, comme ceux de l'entretien et de la rénovation du parc nucléaire français. Et puis, il reste un dernier point pour finaliser la vente. L'achat par la France des actions du groupe Bouygues. De nouveau, il faut négocier sur le prix de ses titres. Le patron français veut les vendre au prix fort, 35 €, alors que le marché les fixe actuellement à 24. Les discussions durent, l'échéance de l'offre de General Electric arrive bientôt à terme. Les équipes du ministre de l'économie se démènent de nouveau. Et finalement, fin juin, un accord est trouvé. Erno Mundbourg vient rassurer les Français et célébrer sa victoire sur le plateau de France 2.
Bonsoir Erno Mundbourg, merci d'être avec nous ce soir. Alors est-ce que l'accord est conclu? Est-ce que vous êtes mis d'accord avec Bouygues?
Nous avons un accord qui a été conclu cet après-midi, qui permet à l'État de devenir le principal actionnaire d'Alstom.
À hauteur de 20%.
À hauteur de 20%.
Comme prévu.
Comme prévu. De manière à assurer la pérennité de l'alliance entre General Electric et Alstom. Finalement, nous avons gagné la bataille industrielle de l'alliance, plutôt que le rachat, dévoration, absorption. que craignaient à la fois nous-mêmes, le gouvernement, beaucoup de Français, mais aussi les syndicats de salariés.
On peut avoir une précision sur le montant de cet accord? À quel taux l'action a été négociée avec Bouygues?
Nous avons une option d'achat que Bouygues nous a consenti, qui nous permet d'acheter lorsque le prix sera le plus bas possible.
Une conclusion juste, Manuel Valls a été un meilleur allié que Jean-Marc Ayrault dans ce dossier, comme il l'avait été pour le dossier Florange.
Oui. Il a été un excellent allié.
Un excellent allié.
Je ne fais pas de comparaison.
Pas de comparaison. Ce soir, on avait un ministre en face de nous qui est très loin de démissionner. Ça a été une rumeur, une question. On a bien Arnaud Montebourg au sein du gouvernement. Il est heureux au sein du gouvernement.
Comme vous le voyez, mais il m'est très difficile de commenter des rumeurs.
Ça n'était qu'une rumeur.
Le bonheur de Dirk Quintan, c'est bien connu. Et pour Arnaud Montebourg, il s'arrêtera à la fin du mois d'août. Deux mois après cette interview, il quitte ses fonctions. Dans l'intervalle, après 56 jours de négociations, la vente est enfin actée. Pour la fêter, Jeff Immelt et Patrick Kron se rendent à Belfort, là où se trouvent leurs deux usines. Ils sont tous au rire. Ils savent qu'ils sont les grands vainqueurs de cette bataille. Ainsi, le 19 décembre 2014, la vente d'Alstom à General Electric est-elle officialisée par le conseil d'administration de l'entreprise française? Quelques mois plus tard, on apprend que Patrick Kron quittera bientôt ses fonctions et surtout qu'il gagnera une prime de 4 millions d'euros pour cette vente, prime qui évidemment pose question.
Patrick Kron, vous avez fait part de votre volonté de partir une fois que le deal serait scellé avec General Electric. Vous allez partir avec 4 millions d'euros en actions, ce qui suscite des critiques en fait de la part de la CGT. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse contester ce départ, ce bonus?
Alors, attendez, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est que je n'ai pas souhaité partir.
À l'Assemblée Générale, vous avez dit « je suis vieux », entre guillemets.
Ouais, enfin, si vous voulez, je suis vieux.
Je suis là depuis longtemps.
Je suis plus vieux qu'en 2003, lorsque je suis arrivé, mais ça arrive à des tas de gens, si vous me permettez. Donc, ce que j'ai dit simplement, c'est que l'opération avec General Electric recentre Alstom sur son activité de transport. Il se trouve qu'il y a, au sein d'Alstom Transport, des équipes parfaitement compétentes, capables de diriger cette activité de transport. Et de diriger demain le groupe recentré sur le transport. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans une organisation?
Donc vous rendez service en partant et on vous donne 4 millions d'euros en échange.
Non, je ne rends pas service en partant. En ce qui concerne la rémunération, et sur lequel je suis un peu embarrassé pour parler, parce que je n'aime pas trop parler des sujets de ce type concernant, ce n'est pas une indemnité de départ, c'est une prime, effectivement conditionnelle, que le Conseil a considéré pouvoir me donner dans l'hypothèse où l'opération, la transaction avec General Electric, irait à son terme. Moi, j'estime ne la mériter en effet.
Au-delà de cette prime, en décembre 2014, c'est toute une série d'autres questions qui surgissent, au premier rang desquelles l'enquête américaine pour faits de corruption et l'amende historique qui pèse sur Alstom. Quelle part a joué cette menace dans le choix des Américains? Comment expliquer que la France ait ainsi cédé un secteur comme le nucléaire aux Américains? Et quand on voit aujourd'hui la situation d'Alstom Transport, qui devait être renforcée, on s'interroge de nouveau sur les errements de la politique industrielle française. N'y avait-il vraiment pas d'autres solutions? Pourquoi ce renoncement? Après le feu médiatique du printemps 2014, ces questions, aujourd'hui, restent entières.
C'est comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers, comme si les images s'arrêtaient, et que les belles heures. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin, comme si la grande roue tournait et que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après pointait l'avant. Comme si qui sera était, et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli, comme si nos rêves souvenaient pas, et que le réveil ne sonnait pas. comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil ou des doigts, et que les étoiles ne brillaient pas. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les dossiers Alstom avec deux invités. D'abord, Mathieu Aron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter et conseiller éditorial du magazine L'Obs, ancien directeur du service investigation de Radio France et directeur de la rédaction de France Inter. Vous avez écrit, avec Frédéric Pierucci, le livre intitulé Le piège américain. Et le sous-titre est important, les sous-titres sont souvent importants. L'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique témoigne. Livre paru chez Jean-Claude Attès en janvier dernier. Frédéric Pierucci est également avec nous, par téléphone à Berlin. Bonjour, vous m'entendez bien ?
Bonjour, je vous vois très bien.
Parfait. Donc nous nous retrouvons dans quelques minutes. Vous êtes ancien président de la filiale chaudière d'Alstom et vous avez été arrêté à New York en avril 2013 par le FBI et poursuivi pour corruption. Ça a débouché sur 14 mois de prison et 2 ans de silence imposés plus tard. Vous vous spécialisez dans les questions de prévention de la corruption internationale. Car il s'agit bien là d'une guerre secrète que les États-Unis livrent à l'Europe en détournant le droit et la morale au passage pour les utiliser comme des armes économiques. La prise d'Alstom est l'une de ces batailles. Mathieu Aron, commençons déjà par ce livre. Comment vous est venue l'idée de cette investigation et plus précisément, quelle était votre intention éditoriale ?
Au moment où Alstom a été racheté, ou en tout cas la partie énergie d'Alstom a été rachetée par GE, il y a plein de questions qui se sont posées. Il se trouve que assez rapidement, j'ai pu rencontrer Frédéric Pierucci et qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué ce que les cadres supérieurs et les dirigeants n'expliquent jamais. C'est-à-dire les dessous de cette guerre secrète dont vous parliez à l'instant. Mmh. Comment les États-Unis, ces dernières années, grâce à un outil absolument extraordinaire, qui est le droit, tout simplement le droit, arrivent à poursuivre les plus grandes entreprises européennes, françaises, mais aussi allemandes, anglaises, italiennes, et en réalité, il faut le dire, rackettent ces entreprises.
Il les poursuit. À coup de procédure et d'amende.
À coup de procédure, à coup d'amende. Et quand on parle d'amende, il faut bien savoir de quoi on parle.
Astronomique.
Ce sont des amendes absolument colossales. Nous, on a pu établir que ces dernières années, les grandes sociétés françaises avaient quand même payé 14 milliards d'euros d'amende aux Américains, au Trésor américain, tout simplement parce que les États-Unis estiment qu'ils sont devenus, en la matière, des gendarmes du monde et qu'ils peuvent poursuivre à peu près qui ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent.
Mais pour être plus fort économiquement, c'est donc une arme économique qui passe par le droit, c'est un racket légal, mais dans racket, il y a quand même, d'un point de vue de la morale, quelque chose qui est moins légal, c'est tout ça en même temps.
C'est tout ça en même temps et en réalité, ces poursuites, elles obéissent à plusieurs buts. Il s'agit d'abord de faire rentrer tout simplement de l'argent dans le trésor américain, dans les caisses du trésor américain, parce qu'à coup de dizaines de milliards, ça fait quand même beaucoup d'argent, même quand c'est les États-Unis. Mais au-delà de ça, comme vous le disiez, il y a le souhait de déstabiliser les plus grands concurrents des grandes entreprises américaines et dans les secteurs les plus stratégiques.
La preuve, là, notamment.
Celui de l'énergie, celui des transports, celui des télécommunications. À chaque fois, on trouve les grandes sociétés européennes qui sont toujours poursuivies par les Américains dans ces domaines-là.
Ça pose aussi la question de l'indépendance des pays. Parce que l'indépendance des pays, ça passe aussi par l'activité économique. D'autant plus, elle est stratégique, comme les transports. Comme le nucléaire.
Ben c'est une vraie question parce que dans l'histoire Alstom, en rachetant la branche énergie d'Alstom, de fait, GE a pris le contrôle de toutes les turbines qui sont installées dans tous les réacteurs nucléaires français qui avaient été fabriqués par Alstom, les turbines Arabelle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que si un jour il y a des difficultés, des tensions entre les États-Unis et la France, il y a un moyen de pression considérable dans les mains des États-Unis. C'est déjà arrivé d'ailleurs, parce qu'en 2003, quand les États-Unis ont été furieux que la France ne s'engage pas à leur côté lors de la guerre en Irak, on sait, le chef d'état-major de l'armée française en a témoigné, que les Américains ont décidé de mettre un embargo sur les pièces de rechange de notre porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle. Et on sait que ça a eu un impact, ça a eu des effets. Donc on n'est pas dans quelque chose d'inimaginable, ça peut toujours arriver, ça peut d'autant plus arriver quand on a une administration américaine qui est celle qu'elle est aujourd'hui.
Bien, on va donner la parole à Frédéric Pierucci. Alors, il y a votre arrestation, vous êtes donc à Berlin. Racontez-nous ces moments terribles que vous traversez en 2013 et pendant plusieurs années, accusé, arrêté et dans des conditions qui étaient des conditions dures. Je crois que vous étiez dans une prison de haute sécurité. Donc c'est une affaire qui mène jusque-là, racontez-nous.
Oui, en fait, à l'époque, en 2013,
on a un petit problème de liaison avec
Allô
Berlin. Voilà, là, je vous entends maintenant. Allez-y, Frédéric Pierucci.
Oui, merci. Donc, en 2013, j'étais basé à Singapour et je venais tous les trois mois aux États-Unis. Et lors d'un de mes voyages en avril 2013, en arrivant à l'aéroport Kennedy à New York, j'ai été arrêté par le FBI, menotté à la porte de l'avion et emmené au siège du FBI. Et là, j'ai rencontré un procureur qui m'a signifié que Alstom était sous enquête du département de justice américain depuis plusieurs années, avait décidé de ne pas coopérer et qu'ils avaient perdu patience, que la cible était le PDG du groupe et qu'ils avaient décidé de m'arrêter et de remonter ensuite toutes les échelles de la fusée jusqu'à lui. Donc le procureur me propose de ne pas appeler mon entreprise, de ne pas appeler mon consulat et à demi-mot de jouer la taupe à l'intérieur d'Alstom pour pouvoir mettre en cause les dirigeants les plus élevés du groupe, ce que je refuse. Et à partir du moment où je refuse, 24 heures après, je suis envoyé dans une prison de haute sécurité, menotté aux pieds, aux torses, les mains, envoyé dans un fourgon blindé. Et là, j'arrive dans le Rhode Island, à Wyatt. Donc, il y a quatre nouveaux types qui sont dans la prison américaine.
Problème. Oui, voilà, maintenant, on tape, oui.
Avec les criminels de carrière, en fait.
Ouais.
Voilà.
Donc, épisode extrêmement traumatisant, j'imagine, mais pourquoi vous ?
Alors, pourquoi moi ?
Décidément, nous avons des problèmes de liaison avec Berlin, Frédéric Pierucci. Alors, on va passer la parole à Mathieu Aron, le temps que la ligne se remette d'aplomb. Alors, peut-être, répondre à cette question, Mathieu Aron, puisque vous avez écrit le livre. Pourquoi lui ?
Pourquoi lui ?
On a l'impression que c'est les États-Unis d'Amérique contre lui.
Oui, alors pourquoi lui ? Pour plusieurs raisons, il a commencé à l'expliquer, hein, Frédéric Pierucci. On arrête un cadre qui était un cadre de haut niveau au sein d'Alstom, mais qui n'appartient pas au cercle des dirigeants. Et en fait, Frédéric Pierucci, dix ans plus tôt, alors qu'il était simple directeur commercial, avait été tenu au courant que pour obtenir un marché en Indonésie, en 2002, il y avait eu des pots de vin versés. Et ça, les Américains le savaient. Donc, il l'arrête, lui, sur la base de ce qui s'est passé 10 ans plus tôt en Indonésie, et ce, alors qu'ils savent parfaitement, et d'ailleurs, ils ne vont jamais lui reprocher, que Frédéric Pierucci, dans l'histoire, n'a pas touché un centime. Simplement, 10 ans plus tard, il est à un niveau plus élevé d'Alstom, et il est tout simplement utilisé comme un otage. C'est-à-dire que on envoie, en fait, un message aux dirigeants d'Alstom, à Patrick Cron, le PDG d'Alstom. Mmh. On vient d'arrêter Pierucci. Vous comprenez, monsieur Cron ? On a été jusqu'à arrêter monsieur Pierucci. Et d'ailleurs, après Frédéric Pierucci, on va en arrêter un deuxième qui est encore au-dessus de lui. Donc on se rapproche, étage par étage, du niveau de Patrick Cron. Et c'est véritablement une forme de pression qui est exercée sur le PDG. Depuis 2-3 ans, vous nous dites que vous coopérez avec nous. Vous vous moquez de nous. On voit que ce que vous nous envoyez comme éléments, ce ne sont pas de vrais éléments. Maintenant, vous allez coopérer. Maintenant, vous allez accepter de payer l'amende. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Et Patrick Cron va se retrouver en réalité totalement pris au piège, parce qu'il y a ces menaces de poursuite américaine qui pèsent sur son groupe, mais qui pèsent aussi sur lui personnellement. Mmh. Il y a un risque potentiel que lui aussi soit arrêté. Et cette amende qui grossit. À l'époque, on parle d'1,5 milliard. Bon, en réalité, cette amende sera fixée à 772 millions d'euros. Mais à l'époque, on parle même d'1,5 milliard. Donc, Patrick Cron doit faire avec ça. Et la meilleure solution qu'il trouve, finalement, c'est de se dire, tiens, il y a un concurrent américain. Et si je vendais au concurrent américain ?
On va revenir aussi justement sur cette vente et la responsabilité réelle ou supposée du gouvernement. On va essayer de rejoindre Frédéric Pierucci à Berlin. Est-ce que vous m'entendez mieux ?
Oui, je vous entends très bien, oui.
Bien. Alors, vous qualifiez vous-même cette histoire de thriller ? Vous avez été dans, vous vous êtes retrouvé dans un thriller ?
En fait, j'ai été pris en otage jusqu'au jour où le gouvernement français a décidé que c'était General Electric qui rachetait Alstom et non son concurrent allemand Siemens, parce que en fait, je devais être libéré au bout de 6 mois, ayant accepté de plaider coupable, mais en fait, je ne serai libéré qu'au bout de 14 mois, la semaine où le gouvernement français acceptera l'offre des Américains. Et donc, pendant toute cette période-là, j'ai vécu avec un gros point d'interrogation, ne sachant pas si j'allais être libéré, quand j'allais être libéré. Alors, je tiens à préciser que pendant cette période-là aussi, mon entreprise m'a licencié pour abandon de poste, alors que j'étais en prison aux États-Unis, arrêté de payer mes avocats. Donc, je me suis retrouvé, ainsi que ma famille, vraiment au fond du trou et seul à devoir me battre vis-à-vis des autorités américaines.
Et pour vous reconstruire, si je puis employer ce terme, vous avez aussi décidé donc de tout raconter. Vous racontez tout avec Mathieu Aron. Il est arrivé un moment où vous vous êtes dit faut vraiment raconter ça.
Oui, en fait, j'ai voulu raconter ça pour deux raisons. Première raison, pour expliquer à mes enfants où j'étais pendant 2 ans. Et pour laisser une trace, parce que ça a été très compliqué, comme vous pouvez l'imaginer, pour la famille et notamment pour les enfants, de comprendre que leur papa était parti en prison pendant 2 ans. Et les raisons pour lesquelles leur père était parti en prison. Et la deuxième raison, c'est pour sensibiliser les cadres des grandes entreprises françaises, mais pas que les entreprises françaises, les entreprises européennes de manière générale, sur les risques qu'ils encourent, notamment dans des cas de corruption, même parfois très lointains. Dans l'affaire Alstom, je vous rappelle, les Américains sont remontés à 9-10 ans. Dans une affaire similaire chez Total, ils sont remontés à 15 à 18 ans. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de prescription sur ces sujets-là. Dans l'affaire Alstom, ils ont même arrêté 3 personnes qui étaient à la retraite depuis plusieurs années.
Alors, sur le fond maintenant, vous restez avec nous en ligne, Frédéric Pierucci, bien sûr. On discute aussi avec Mathieu Aron. Alors, Patrick Cron, le PDG, a dit beaucoup de choses sur cette vente. Il a dit le pronostic vital était engagé. Et puis finalement, c'est bien de recentrer les activités sur la branche transport, un système de vases communicants. Il y en a un qui va pas bien, on fait porter les efforts sur l'autre. Il y a eu tellement de déclarations de Patrick Cron qu'on a du mal à faire le tri, Mathieu Aron. Comment on s'est retrouvé là-dedans ?
Ben parce que je pense qu'il fallait quelque part justifier l'injustifiable, tout simplement. Donc vous avez commencé à l'expliquer. Quelques années avant la vente, et quelques mois je dirais même avant la vente, il était question en réalité, pour renflouer en tout cas la trésorerie d'Alstom, qui effectivement était quelque peu en difficulté, de vendre 20% de la branche transport aux Russes et de ne pas toucher à la branche énergie. Et puis, quelques mois plus tard, tout d'un coup, on vend toute la branche énergie. Et ça, à un moment donné, où Patrick Cron a toujours soutenu que comme les marchés des transports ou le marché de l'énergie étaient des activités cyclique, il fallait avoir les deux éléments, parce que si ça baissait dans les transports, on s'appuyait sur l'énergie, et si ça baissait dans l'énergie, on s'appuyait sur les transports. Et puis au moment de la vente, tout d'un coup, voilà, tout change, on change complètement d'explication, c'est pas du tout ça. Alstom n'aurait plus la taille critique. Ce qui est un argument quand même assez curieux, parce que en vendant l'énergie, parce qu'on est trop petit, on devient encore plus petit. Donc faut suivre Patrick Cron. Et puis à l'époque, Patrick Cron nous expliquait aussi que, de toute manière, en se centrant sur l'activité transport, on allait créer un géant qui vivrait sans aucun problème, qui ne connaîtrait pas de difficultés. On a vu très 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 rapidement qu'en réalité, la branche transport, elle aussi, pouvait avoir des soucis, puisqu'il a été question après d'un rachat ou en tout cas d'un rapprochement avec Siemens. Donc on comprend bien que les dirigeants d'Alstom, et d'ailleurs aussi en partie les dirigeants français, mis devant le fait accompli. En réalité pris à la gorge par les Américains, ont dû trouver des explications pour expliquer ce qui en réalité ne pouvait pas être expliqué.
Mais sommes-nous si faibles, Frédéric Pierucci, pour ne pas trouver de solution, pour ne pas tomber dans le piège des Américains ?
Pour l'instant, il y a un début de réaction en France. Déjà, je pense que l'affaire Alstom a réveillé beaucoup de conscience. Il y a eu une première étape qui a été la création en France de la loi Sapin 2 qui permet en fait aux entreprises françaises et au gouvernement français de régler les affaires de corruption d'entreprises françaises en France et qui permet que les amendes éventuellement payées par les entreprises françaises soient payées au trésor français plutôt qu'au trésor américain. Donc cette loi date de fin 2016, il y a une agence française anti-corruption qui a été mise en place. Parce que c'est vrai que les Américains avaient beau jeu de dire, écoutez, vous, Français, vous ne traitez pas la corruption de vos propres entreprises, donc on le fait à votre place. Là, maintenant, on a un cadre juridique qui permet de traiter ces affaires en France. Et donc, il y a quand même un espoir qu'il y ait un nouveau rééquilibrage de ces sanctions. Mais les États-Unis ne comprennent en fait que le rapport de force. Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il y a 6 entreprises du CAC 40 qui ont payé des amendes colossales au ministère de la Justice américain pour des faits de corruption. Il y en aura encore à peu près autant et certaines stratégiques comme Airbus qui sont sous enquête, mais donc qui vont y passer. Donc ça fait quand même pratiquement 30% du CAC 40 qui soit y est déjà passé, soit va y passer. Ouais. Donc on est quand même très loin d'un rééquilibrage, mais il y a au moins un frémissement, en tout cas au niveau français. Au niveau européen, pour l'instant, il n'y a pas de réaction concertée des États au niveau européen pour qui serait vraiment le seul contrepoids possible des États-Unis.
Mais oui, l'Europe, la vocation de l'Europe, entre autres, c'est justement de faire rempart, enfin dans une Europe idéale. Ce serait ça dans la postface du livre. Alain Juillet, ancien directeur du renseignement de la DGSE, dit, je le cite, confronté à cette logique impériale, donc on parle des États-Unis, hein, s'appuyant sur la puissance militaire, la légalité juridique et la capacité digitale, l'opposant n'a pas le choix, il doit se soumettre. Est-ce qu'on peut se soumettre à ce diktat, justement? Est-ce qu'il faut accepter ça, même si ce que Juillet dit est probablement vrai? Est-ce que, justement, tout l'effort à porter, c'est de ne pas accepter ça? Et comment?
On ne peut pas accepter ça, mais si vous voulez, pour l'instant, on n'en a même pas conscience. Il y a déjà ce réveil des consciences qui a lieu actuellement. Maintenant, il faut passer à la prochaine étape. Donc la loi Sapin 2 est une première étape, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Alors, pour l'instant, on a certaines réponses qui sont sur, par exemple, la taxation des GAFAM, etc., d'autres sujets annexes qui font partie de la riposte générale vis-à-vis de cette extraterritorialité du droit américain, mais elle est encore très très faible. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Europe, on n'est pas unis là-dedans, parce que certains pays européens ont quand même des intérêts militaires et de défense de souveraineté qui sont très très liés aux États-Unis, à l'OTAN, etc. Donc c'est pas facile de trouver une coordination européenne. Ce qui serait important, c'est de commencer par une coordination franco-allemande, parce que les entreprises allemandes, c'est pour ça que je suis à Berlin aujourd'hui, par exemple, parce que les entreprises allemandes ont été aussi sanctionnées de manière extrêmement dure par les autorités américaines, même les sociétés anglaises. Donc, ce qui serait déjà un premier pas, ce serait une certaine coordination entre 2 ou 3 pays clés, les plus industrialisés et les plus attaqués par les États-Unis sur ce sujet.
Dernière chose, ça va vite, hein, c'est presque la fin déjà. Mathieu Aron, quel regard peut-on porter sur la réaction du gouvernement français dans cette affaire?
Alors, globalement, les autorités françaises ont laissé faire. Alors, au sein du gouvernement, tout le monde n'était pas d'accord. Et en particulier, il y avait un ministre, Arnaud Montebourg, qui s'est beaucoup intéressé, s'est beaucoup mobilisé sur cette affaire. Il a compris très vite ce qui se passait, ce qui était en jeu, ce qui se tramait. Il a essayé de s'opposer à Alstom, il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu. Les autres membres du gouvernement, président, premier ministre et successeur d'ailleurs d'Arnaud Montebourg ont laissé faire en réalité. Ont laissé faire en pensant que de toute façon, en l'occurrence, ils avaient été quelque part en partie pris de vitesse aussi par les poursuites américaines, le fait que Patrick Cron ne leur ait rien dit. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment, c'est ce qu'ils disent. Donc ils ont préféré laisser faire.
Merci Frédéric Pierucci, donc vous étiez à Berlin, merci d'être intervenu. Merci Mathieu Aron, je rappelle le titre de ce livre, Le piège américain, et son sous-titre important, L'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique, témoigne, en l'occurrence Frédéric Pierucci, et c'est chez Jean-Claude Lattès, paru en janvier dernier. Merci messieurs, au revoir. Cette affaire sensible aujourd'hui, Alstom, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, et on le remercie, il y avait Arnaud Caillet.